Mes bien chers frères, je vous parle depuis le monastère de la Sainte Croix au Brésil, au milieu des montagnes de la nature sauvage dans laquelle Monseigneur Thomas d'Aquin a installé ses moines. Aucun bruit de civilisation moderne, si on peut appeler ça de la civilisation, n'arrive jusqu'à nous. Et il me semble qu'en termes de civilisation, la pauvreté du monastère vaut bien, vaut mieux même, que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Demain, je participerai à l'ordination sacerdotale d'un sujet de Monsieur l'abbé Chazal. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement. Un sujet que je recommande à vos prières. Il retournera aux Philippines, où il aidera grandement Monsieur l'abbé Chazal, qui est largement submergé par le travail. Travail abondant, vous vous en doutez. La semaine dernière, je prêchais une retraite aux séminaristes de Monseigneur Faure et je les recommande, eux aussi, à vos prières pour qu'ils soient de bons et saints prêtres, même s'ils ne sont pas nombreux, que vraiment ils fassent l'œuvre de Dieu telle que la Providence le leur demande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans le dernier sermon, nous avons vu que le baptême nous ensevelissait avec Jésus-Christ dans la mort et qu'il nous faisait ressusciter avec Jésus-Christ ressuscité. Ce sont des choses très importantes puisque le baptême marque notre vie chrétienne, nous montre ce qu'est la vie chrétienne. Nous allons étudier, mais un peu plus tard, ce qu'est d'être ressuscité avec notre Seigneur ressuscité et il faut voir ce que c'est que d'être enseveli avec notre Seigneur enseveli dans la mort. Ce n'est pas qu'un symbole, bien sûr, c'est une réalité. Pour ça, je voudrais vous parler tout d'abord du martyre, ensuite de l'amour des opprobres, puis de la nuit des sens, je vous expliquerai ce que c'est, de la lutte contre les passions, et je vous dirai un tout petit mot sur la nuit de l'esprit. Là aussi, je vous expliquerai ce dont il s'agit. Afin que mon propos ne soit pas trop dense, je serai obligé de faire plusieurs sermons sur ces sujets. Tout d'abord, le martyre. Pourquoi parler du martyre comme s'il n'y avait pas d'autres choses plus communes dans lesquelles presque tous les chrétiens se trouvent, alors que très peu de chrétiens sont quand même martyrisés? Un auteur moderne, mais bon, le père Pinkers, dominicain, a écrit un livre sur la spiritualité du martyr. Il dit le martyr n'est pas pour tout le monde, mais il marque la vie chrétienne. Et les premiers chrétiens aspiraient au martyr parce que par là, ils seraient plus identifiés au Christ. C'était pour eux une joie d'être martyrisé, et beaucoup aspiraient à cela. Lorsque notre Seigneur, après avoir confirmé Saint Pierre comme chef du troupeau de toutes les brebis et de tous les agneaux, vous vous rappelez, c'était après la résurrection sur les bords du lac de Tibériade, notre Seigneur demande trois fois à Saint Pierre, M'aimes-tu? Trois fois, celui-ci lui répond, Mais vous savez bien, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Notre Seigneur n'attendait que cela pour le confirmer comme chef de toute l'Église, mais aussi pour lui faire une promesse qui serait, on s'en rend bien compte, la récompense de sa fidélité. Il lui promet le martyre. Saint Jean a assisté à toute la scène, et donc il en a témoigné. Et Saint Pierre, tout heureux de ce qu'il considérait comme un grand cadeau du Seigneur, aussitôt demande à Jésus-Christ, Et lui, Saint Jean, pourra-t-il en bénéficier lui aussi? Là, notre Seigneur lui répond, Ça, ce n'est pas tes affaires, ce sont les miennes. On voit également que Sainte Thérèse d'Avila, alors là, c'est des siècles plus tard, puisque nous sommes au XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila, toute jeune encore, à 8 ans à peu près, avait un tel amour du Christ que spontanément, et c'est intéressant de voir que c'est une enfant qui le désire, parce que Ce n'est pas quelqu'un qui lui a mis cela dans la tête, c'est vraiment le fruit de l'inspiration du Saint-Esprit, qui s'est peut-être servi des occasions, des vides saints, que sais-je, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui a inspiré cela. Sainte Thérèse d'Avila, donc, veut être martyre. Le plus simple moyen, évidemment, c'est de quitter sa ville, Avila, de partir vers le sud, où il y a encore de nombreux mahométans, les Maures. Elle sait qu'en leur prêchant Jésus-Christ, elle espère bien du moins, ils la persécuteront et la mettront à mort. Dans son enthousiasme, elle a convaincu son frère de l'accompagner. Bien sûr, son père ne le permit pas. Dès qu'il s'aperçut de l'absence de ses enfants, il envoyait quelqu'un à leur recherche et les deux furent ramenés à la maison. Cependant, cette énergie, cette force, ce désir d'une très grande union à Dieu va continuer chez Sainte Thérèse. Et elle le fera tout d'abord par une très intense vie d'oraison et deuxièmement, par la réforme, la refondation des carmes du Carmel et des carmélites. Et cela, il faut le noter, vous voyez. Même sans le martyr a marqué sa spiritualité d'oraison. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, puisque saint François d'Assise avait le même désir. Et pour cela, il traversa la Méditerranée, se rendit en Égypte, prêcha Jésus-Christ au sultan d'Égypte, et il en attendait bien soit la conversion du sultan, soit le martyre pour lui. Le sultan ne lui en voulut pas de son audace, et quoiqu'il ne se convertît pas, il l'écouta volontiers, ne le fit pas prisonnier, ne le persécuta pas. Là encore, saint François n'avait pas exactement ce qu'il demandait, mais cette spiritualité du martyr le marqua profondément et marqua profondément son esprit et son œuvre, puisqu'on peut dire que les franciscains sont vraiment les martyrs de l'amour et de la pauvreté de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait tant de bien dans la chrétienté et dans le monde entier pour étendre le règne d'amour de Jésus-Christ. J'ai connu deux jeunes très récemment, qui, à la suite du martyre de ce prêtre à Saint-Étienne du Rouvray, vous vous rappelez, c'était il y a 4-5 ans, en Normandie, près de Rouen, ils entendent parler de ce prêtre qui a été martyrisé, et l'un et l'autre sont à un camp de jeûne, et ils demandent à Dieu la grâce de mourir martyr. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils se rendent et se rendront compte de la demande qu'ils ont faite, mais il est évident que cela va marquer leur vie, et même s'ils venaient à l'oublier, le bon Dieu, lui, ne l'oubliera pas, et ce sont des demandes qui vous assurent presque à coup sûr le salut éternel. L'application pratique pour vous tous, mes bien chers frères, qui, très probablement, n'auraient pas à subir le martyre, c'est tout d'abord de ne pas craindre la mort ni les souffrances, qui, au contraire, sont une petite récompense que le bon Dieu vous donne, même s'il ne vous fait pas la grâce du martyr, une petite récompense que le bon Dieu vous donne à vos mérites, et également une perfection qu'il ajoute à vos mérites pour vous permettre d'en gagner de plus grands et ainsi d'avoir une plus belle place au ciel. Mais également, à vous tous, cette spiritualité du martyr qui anime les vrais bons chrétiens, les premiers chrétiens du moins, et les chrétiens enflammés d'amour de Dieu, doit vous pousser à ne pas craindre la persécution. C'est une chose qui m'inquiète. Dans la persécution qui s'est rendue visible avec le confinement et le Covid, c'est de voir l'inquiétude et même dans certains cas, l'affolement. D'abord, cette persécution n'est pas nouvelle. Seulement, évidemment, maintenant, elle nous touche. C'est une persécution contre la foi qui est venue graduellement et qui fut une persécution violente, sanglante, en 1789 un petit peu, surtout 1792 jusqu'à 1794 et même au-delà, une persécution qui fut moins sanglante, mais tout aussi dangereuse et tout aussi grave à la fin du XIXe siècle, lorsque les religieux furent chassés de France. Et on a la même chose dans tous les autres pays, hélas, tous les autres pays catholiques, hélas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les persécutions du 19e furent non sanglantes et il y eut beaucoup moins de courage, beaucoup moins de résistance que lorsqu'elles furent sanglantes. Mélanie Calvin se moque vraiment de religieuses qui se sont laissées mettre sans résistance à la porte de leur couvent tout en priant pour leurs persécuteurs. Et même si le Christ a demandé de prier pour les persécuteurs, il nous demande d'être fidèles, de résister au mal. Et voici que, à un siècle de distance, tous ces bons chrétiens ont perdu la résistance, la force des Vendéens et des bons chrétiens de 1792. Il est vrai que depuis, le libéralisme était passé par là, et notamment libéralisme largement encouragé et même promu par l'Église, enfin par les hommes d'Église. Donc les persécutions sont là, mais bien chers frères, ne les craignez pas. Demandez au contraire à Dieu de les affronter avec courage et avec fidélité, et voyez-les comme une récompense, tout d'abord comme une indulgence de Dieu pour nos faiblesses. Par là, il nous permet de racheter tant et tant de faiblesses, et en même temps, elles sont une récompense pour notre fidélité. La vraie spiritualité du martyr se trouve dans la vertu de force. La force, arrivée à son sommet, c'est effectivement de subir le martyr, quoi qu'il arrive, et de mépriser la vie, même la vie pour cela, à plus forte raison de mépriser les biens du monde et le vain honneur du monde, le vain honneur du monde, au sujet duquel tant de catholiques ont du mal à ne pas se laisser impressionner. La vertu de force est une vertu qui nous donne la mort avec Jésus-Christ, même si cela ne va pas jusqu'au martyre. Et il est très important de la former chez les enfants et chez les jeunes. Parlons pour les enfants et les jeunes, je parle également pour vous, mes bien chers frères, les adultes qui m'écoutez. Si vous avez du temps à rattraper, eh bien, faites ce que je vous dis. Il faut faire connaître aux enfants et aux jeunes, surtout à l'âge où les passions ne sont pas encore allumées, où l'amour du monde est encore très faible, où l'amour de Dieu est encore très fort, oui, puis surtout très simple et très pur. Il faut leur faire connaître les martyrs de l'Antiquité et même les martyrs modernes, car il y en a beaucoup. Et le bon Dieu est bien bon de permettre aujourd'hui à tant et tant de catholiques de subir le martyre pour leur foi. Il les préserve ainsi de tomber dans le modernisme et de se perdre peut-être à cause du modernisme. On voit vraiment que le bon Dieu est à l'œuvre avec tous ces martyrs aujourd'hui. Quelle bénédiction pour ces gens-là! Quelle bénédiction pour eux! Et même quelle récompense de toute leur fidélité! Il faut faire comprendre, et il faut le comprendre vous-même, mes bien chers frères, que le martyr est une sagesse, que les martyrs qui ont méprisé leur vie ont été sages. L'esprit mondain, l'esprit libéral, qui se regarde soi au lieu d'abord de regarder Dieu, pousse à dire, mais l'Église a besoin de moi, la fraternité Saint-Pie-X a besoin de moi. S'il s'agit d'un père ou d'une mère de famille, ma famille a besoin de moi. Alors, ne devrais-je pas faire quelques petites concessions pour me garder en vie et ainsi me conserver à ma famille, à l'Église, à la fraternité et que sais-je? C'est oublier la providence divine. C'est oublier que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et s'il est semence de chrétiens, à plus forte raison, il est semence d'héroïsme, il est semence de vocation, il est semence de vocation religieuse et sacerdotale. Celui qui, par un faux calcul, échapperait au martyr, non seulement échapperait alors à l'héroïsme, mais priverait le monde, l'Église, sa famille, de l'héroïsme dont on a tant besoin aujourd'hui. Et il est évident que des enfants qui seraient orphelins à cause du martyre de leurs parents, Dieu ne les abandonnerait pas, au contraire. Au contraire. Et il est évident que des fidèles qui seraient orphelins de prêtres, parce que le prêtre a préféré demeurer fidèle, il est évident que ces fidèles, si vraiment ils cherchent Dieu, Dieu s'occupera d'eux, même s'ils n'ont plus de prêtre. Donc le martyre est une sagesse. Il est important de le noter, parce que le baptême, justement, fait entrer dans la sagesse de Dieu. Il faut faire prier pour les martyrs, faut plutôt pour les chrétiens persécutés, parce que les martyrs, eux, sont au ciel, il faut les prier. Mais il faut faire prier pour les chrétiens martyrisés, les chrétiens persécutés, pour qu'ils soient fidèles, qu'ils ne regrettent pas la grande grâce que Dieu leur fait. Et il faut faire raisonnablement, bien sûr, raisonnablement désirer. Alors, faire désirer cette grâce, c'est surtout la faire estimer. C'est surtout faire mépriser le monde. Je vous en parlerai dans les sermons suivants. Si vraiment vous mettez en pratique ce que Dieu attend de vous, et que je vous dirai dans les sermons suivants, à l'amour des opprobres, la nuit des sens, la nuit de l'esprit et la lutte contre les passions, alors vous entrerez dans cette spiritualité du martyr. Il faut former nos jeunes à la force, et pour ça, je ne vous donnerai aucun conseil, il y en a d'autres bien entendu, je vous conseillerai l'exercice des œuvres de miséricorde avec vos jeunes. Un jeune qui est capable de s'oublier soi-même pour porter secours à son prochain, surtout dans des conditions difficiles. Je pense à des malades âgés qui sont peu agréables quelquefois à soigner. Un jeune qui est capable de faire cela, il est évident qu'il a déjà une grande force et qu'il est déjà bien avancé sur cette voie de la mort avec Jésus-Christ pour ressusciter avec lui. C'est ce qu'il faut demander à la Sainte Vierge qui a été, bien sûr, elle n'a pas été martyrisée et pourtant elle est reine des martyrs parce que depuis l'Annonciation, son fiat, jusqu'au pied de la croix, elle n'a eu qu'un souci de soutenir et de participer aux souffrances de son fils et même d'offrir son fils sur la croix pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.